Du 25 au 28 janvier 2024, l'association Écologie au quotidien organisait ses 22e rencontres de 10 intitulées « Agir pour le vivant ». Erdiwa était convié à prendre la parole de quelques intervenants présents lors de ces 4 journées. Eric Eschiman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain et journaliste actuellement au Nouvel Observateur, mais vous avez aussi exercé au sein de Libération et de la GFI. Et vous avez rédigé donc de nombreux ouvrages avec des sujets variés, et dont l'un des derniers concerne les penseurs de l'écologie.
Oui, alors c'est un ouvrage collectif, parce que je suis journaliste à l'Obs, comme vous l'avez dit, et responsable des hors-séries, et j'ai monté la publication d'un hors-série qui s'appelait « Les penseurs de l'écologie », à partir duquel on a fait un livre, le livre dont vous parlez, « Les penseurs de l'écologie », et donc il y a des articles de camarades, de collègues, confrères du Nouvel Obs, qu'on a repris. Il y en a une partie qui sont de moi, une partie des camarades. C'est un travail collectif que j'ai coordonné.
Voilà. Et donc sont énumérés aussi de nombreux philosophes ou penseurs sur des siècles en amont, et de manière à mettre en évidence quels propos.
Alors, l'idée est venue de ce que l'écologie est un sujet qui monte, qu'on aborde souvent sous l'angle d'un problème à régler, un problème d'environnement, de pollution. Parfois, quand on commence un peu à en faire l'histoire, on s'intéresse à l'histoire militante ou l'histoire scientifique, mais en fait, l'idée que c'est une pensée, et que cette pensée, elle a une histoire, qu'elle se déploie sur 2 siècles et demi, c'est-à-dire qu'en fait, elle est aussi ancienne que les causes de la pollution, c'est-à-dire la société industrielle, c'est une de quelque chose qui n'apparaît que récemment. Alors, il y a des historiens, on commence à travailler sur ce domaine, et nous, de notre point de vulgarisation, qui est le travail des journalistes, on s'est saisi de ces travaux, on les a complétés par nos propres enquêtes, et on a vu que rassembler dans un même volume des présentations de penseurs aussi variés que Jean-Jacques Rousseau, qui publie Les Rêves du promeneur solitaire en 1778, donc on est au tout début de l'ère industrielle, vraiment au balbutiement, jusqu'à Greta Thunberg ou Pablo Servigne, qui est un peu le local de l'étape puisqu'il est dit, ça faisait du sens parce que ça permettait de mettre en perspective des noms qu'on peut entendre comme ça, que le public entend, mais on ne sait pas très bien d'où ils viennent, ce qu'ils sont, c'est un peu brouillardeux, on n'a pas de repères. On a voulu donner des repères pour que les gens qui s'intéressent à ce sujet se disent « Ok, moi j'ai envie d'aller vers ça, moi j'ai envie d'aller vers ça ». Ce n'est pas un exercice d'érudition. On ne veut pas écraser le lecteur avec des noms qu'il faudrait avoir lus. C'est pas du snobisme, enfin on espère que non. C'est au contraire une mise à disposition. Promenez-vous dans cette histoire-là, comme on peut se promener dans une histoire du cinéma ou une histoire de la littérature, et puis aller vers là où vous êtes attiré.
Vous introduisez ce rendez-vous avec Penser l'écologie. D'ailleurs, Penser l'écologie, cette invitation s'adresse à qui ?
Alors, je ne sais pas si c'est une invitation, c'est plutôt qu'il y a un constat. Oui, c'est plutôt une invitation faite au lecteur, en lui disant il y a des gens qui ont pensé l'écologie. L'écologie nous met dans un certain. Enfin, la situation, la crise écologique, le défi écologique, notamment climatique, mais aussi la biodiversité, l'eau dont on est en train de parler à côté dans la salle. Tous ces sujets nous mettent dans un certain désarroi parce qu'on a du mal à voir les solutions. C'est des sujets énormes qui défie un peu les capacités d'action d'une personne ou d'un groupe de personnes. Donc je crois que le sentiment d'impuissance et de découragement est assez largement partagé. Et il y a des façons de le combattre, alors il y a l'action, mais la lecture, c'est aussi une façon de le combattre, parce que penser, nommer, décrire, élaborer, faire des récits, comprendre, ça permet de maîtriser au fond cet objet, ce défi qu'on a face à nous. Voilà, donc penser l'écologie, c'est de dire au lecteur, il y a des penseurs de l'écologie, venez vous y nourrir et venez à votre tour penser l'écologie.
À l'heure actuelle, le mouvement écologiste est plutôt mis à mal avec les contraintes qui sont exercées sur des secteurs professionnels ou économiques. Est-ce que pour vous, ça a toujours été un peu une réaction au fil de ces siècles par rapport à l'écologie ?
Alors, c'est un match, hein, l'écologie, ou c'est un rapport de force, c'est une lutte des classes, on peut y des formules variées. La première chose, c'est que les réactions aux dégradations que subissent notre environnement, que subit la nature, ne sont pas nouvelles. Hein. Elles ne datent pas des années 70, ici on est à 10, on a peut-être le souvenir de la grande manifestation de Cresmaville de 1976, où il y avait un habitant du Diwa qui était mort, et c'est les grandes années de mobilisation des années 70, ensuite il y a eu les années 2010 avec les manifestations climat, et on se dit, ben voilà, il n'y aurait rien eu d'autre. En fait, non, ça a commencé il y a très longtemps, c'est aussi vieux que l'époque industrielle. Donc dès la fin du 18e, il y a des historiens qui le racontent de façon détaillée, il y a des protestations contre les premières fabriques qui utilisent des produits chimiques avec des effluves, des émanations toxiques, nauséabondes, etc. Il y a des protestations, y compris avant même la Révolution française, parce que certaines protestations se finissent à la Chambre du Roi. Donc cette bataille, elle est très ancienne. Et là-dedans, la pensée, elle vient en quelque sorte, elle constate, c'est comme les théoriciennes du féminisme ou les théoriciens des inégalités ou de la question coloniale ou de toutes les discriminations, de toutes les dominations, de toutes les souffrances. Il y a des gens qui sont dans l'action et d'autres, parfois c'est les mêmes, et qui... Il y a le temps de l'action et puis le temps de la pensée, de la mise en mots. Et donc ça commence très tôt. Rousseau, en 1778, écrit donc les rêveries du promeneur solitaire. C'est la même année où Buffon, le grand savant, écrit « La face entière de la terre porte l'empreinte de l'homme ». Donc en fait, il y a coexistence, c'est vraiment, ça va ensemble. Au moment où il y a les dégradations, les atteintes à l'environnement, il y a la pensée qui se met en route. Et ça va suivre pendant ces 250 ans, ça ne va pas arrêter. Par exemple, George Sand, l'écrivaine, dont on parle en mode réduit dans le livre, George Sand, l'écrivaine, a eu des textes très beaux et très, très, très forts à propos de la forêt de Fontainebleau, où il y avait un projet immobilier qui allait détruire une partie de la forêt. Et il y a des artistes qui se sont mobilisés, et voilà, des écrivains qui ont écrit, des philosophes qui ont écrit. Voilà, la pensée se met au travail dès que l'action est là et qu'il faut la faire durer.
Quelle est la place de la pensée, justement, aujourd'hui, parmi les dirigeants, le pouvoir?
Alors, la pensée écologique, contrairement à ce qu'on peut croire, n'a jamais été marginale au sens où elle aurait été pas lue, ignorée par le public. Rousseau était très très connu. Quand George Sand fait ses textes, la bataille de Fontainebleau est très connue à l'époque. Je cite l'exemple de Rachel Carson, qui est une biologiste américaine qui fait en 1962 un livre qui s'appelle Le printemps silencieux pour dénoncer les pesticides. C'est le premier grand livre populaire. Le livre est un succès immense, 2 millions d'exemplaires, c'est phénoménal. Et toutes les radios, toutes les télés en parlent. Kennedy, le président Kennedy, qui est à l'époque donc président des États-Unis, est obligé d'en parler. Enfin, c'est pas du tout passé inaperçu. En revanche, la bataille est féroce déjà. Et par exemple, pour prendre l'exemple de Rachel Carson, les industries chimiques lancent des attaques très violentes contre elle en déclarant c'est une femme non mariée, elle n'a pas d'enfant, elle est bizarre, elle est sûrement communiste, etc. Donc, tout ça pour dire que la pensée écologique a toujours rencontré un large écho, mais c'est simultanément toujours heurté aux institutions politiques. Ce qui est en train de changer depuis une quinzaine d'années, c'est que maintenant, elle s'exprime à l'intérieur des institutions académiques, notamment à Sciences Po, avec une figure dont on parle longuement dans ce numéro, qui s'appelle Bruno Latour, qui est un philosophe qui est mort l'année dernière, qui est vraiment le philosophe qui s'est saisi de l'écologie pour en faire une question philosophique. Alors, on peut penser que c'est de la théorie un peu éthérée, qu'est-ce que ça change un philosophe? Non, parce qu'en fait, il était directeur scientifique de Sciences Po. Et en fait, avec sa pensée, il a formé plein d'élèves, de disciples qui sont aujourd'hui des professeurs dans toutes les universités. Et il forme aussi les futurs cadres de la nation, les futurs élites dirigeantes, etc. Et donc, on voit dans les jeunes générations que la prise en compte du vivant, de l'environnement, de l'écologie est importante, que les générations qui ont 40 ans n'y comprennent rien et que celles qui ont 30 ans sont natives, enfin sont alphabétisées, parlent l'écologie. Et j'ai des témoignages à plusieurs endroits, dans des administrations, dans des collectivités locales, où l'arrivée de ces nouvelles générations change vraiment les pratiques. Ce n'est qu'un élément, il faut continuer à se mobiliser, etc. Mais voilà, la diffusion des idées dans les sphères politiques, ça passe par la formation.
Il y a une phrase qui est citée autour de ce livre, Les penseurs de l'écologie, c'est « Nous ne savions pas, nous venons de comprendre, laissez-nous le temps de le réaliser ».
Alors cette phrase, on la lise un peu pour s'en moquer, parce que c'est le discours officiel. Le discours officiel, médiatique, des gouvernements, c'est de dire « Ah ben oui, c'est vrai, là il y a un problème de biodiversité, de climat. On ne se rendait pas compte que si on brûlait des tonnes de pétrole, si on bazardait des saletés dans les rivières, si on rasait des forêts, si on mettait en monoculture des milliers d'hectares, des centaines de milliers d'hectares, ça allait produire telle atteinte aux équilibres naturels, enfin en tout cas aux écosystèmes, qui ne sont pas équilibrés, mais qui se régulent. Et c'est un peu un récit qui est construit en disant on ne savait pas, nos prédécesseurs ne savaient pas, on le découvre, et maintenant on vous promet qu'on va bien faire. En fait, les historiens ont montré que c'était faux. À plein d'égards, par exemple, le mécanisme du réchauffement climatique, on a l'impression qu'on l'a découvert il y a 30 ans. En fait, on le connaît depuis la fin du 19e siècle. C'est un savant suédois, prix Nobel de chimie, donc pas du tout un marginal encore, qui le met à jour à ce moment-là. Et encore, il y a même d'autres qui avaient anticipé ça bien avant. Et dans les années 30, l'hypothèse était un petit peu mise à l'écart par les scientifiques. Et dès les années 50, elle a été remise au travail. Et en fait, elle est examinée très sérieusement par tous les scientifiques qui travaillent sur ces questions-là dans les années 50-60. Dans les années 60, on n'a plus aucun doute sur le mécanisme. Dans les années 70, on a une certitude que c'est d'origine humaine et que ça a déjà commencé. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on crée le GIEC en 90, parce que les gouvernements sont obligés d'admettre qu'il se passe quelque chose. Donc tout ça pour dire que dire « on découvre aujourd'hui, laissez-nous le temps », etc., c'est faux. En fait, on a laissé la nature, Gaïa, la Terre a laissé beaucoup de temps aux sociétés humaines pour faire face, et on n'a pas mis à profit ce temps pour modifier nos fonctionnements et les impacts sur la pollution de nos activités, les impacts sur la nature de nos activités.
Alors, il y a ce que vous dites, donc la pensée écologique existe au moins depuis deux siècles, voire plus. Pour vous, justement, quand je posais la question, quelle est la place de la pensée au niveau de l'exécutif ou des pouvoirs, sans peut-être être sur sa fin, laisser un peu sur sa fin, sur les programmes et même les directives ou les projets avancés à l'heure actuelle?
Il se trouve que j'ai obtenu des informations, voilà. Certains points se sont éclaircis. Et non mais, il vous est jamais venu à l'esprit qu'au lieu de vous répandre comme ça contre moi, étant donné la tournure qui a compris les choses, tout ça est, je sais pas, tout ça est plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est peut-être pas aussi simple, hein? Je veux dire...
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du DIWA.
107.5
101.7
FM.
Alors, non, c'est vraiment une histoire de la pensée écologique. Donc, l'histoire de l'action publique en matière d'environnement, moi, je ne suis pas spécialiste, je n'ai pas travaillé là-dessus. Donc, je peux donner une appréciation générale. Mais avant, ce que je voudrais dire, c'est que la pensée écologique existe depuis deux siècles. Mais évidemment, elle s'est déployée progressivement. Et elle n'est devenue vraiment politique qu'à partir des années 70, quand Rachel Carson parle des pesticides et du DDT, qui d'ailleurs va finir par être interdit à la suite de son livre. Donc en fait, ça a quand même un impact. Mais à l'époque, il n'y a pas du tout de médiation politique, il n'y a pas d'association, il n'y a pas d'intellectuel, il n'y a pas de parti. Donc ça s'est mis en place progressivement depuis les années 70. Et il y a du coup une pensée politique de l'écologie qui s'est mis en place, qui n'est pas seulement « Oh là là, on est en train d'attenter à la nature », mais qu'est-ce qu'on fait, comment on réorganise nos sociétés pour ça, et aussi comment on protège nos sociétés, parce qu'en fait, on rentre dans une logique d'autodestruction, hein, c'est qui est important. Donc, ce mécanisme-là, il est progressif. On peut trouver qu'il est trop lent, mais en tout cas, il se déploie comme ça. Et il n'est pas immobilisé. Ensuite, l'impact réel dans les politiques publiques, oui, c'est décevant, hein, c'est décevant, c'est sûr. C'est pas le seul sujet sur lequel c'est décevant. Sur les inégalités, c'est décevant. Sur les droits des femmes, c'est décevant. Sur le racisme, c'est décevant. Les politiques publiques sont souvent décevantes, sont souvent en main de gens qui n'ont pas spécialement envie ni intérêt, à bouger les choses. Le pouvoir. Là, on rentre dans la question des processus électoraux, des votes. Pourquoi est-ce que l'écologie, qui a toujours en deux ou troisième, la crise climatique a toujours en deux ou troisième position dans les soucis, dans les inquiétudes des Français, dans les inquiétudes d'opinion, bien loin devant la sécurité, l'immigration, etc. En général, il y a l'emploi qui est avant, l'emploi ou les prix. Donc pourquoi ce sujet qui tient à cœur en français, il y a plein de gens qui sont inquiets, pourquoi ça ne se métabolise pas en force politique, ça j'ai pas la réponse, et si quelqu'un l'avait, je pense qu'il aurait un beau prix Nobel en vue.
La science a progressé aussi pour analyser, étudier la matière, la nature et mettre en évidence des nouveaux éléments toxiques. Et puis il y a aussi le moyen d'analyser encore plus finement les teneurs de l'eau, par exemple, et de mettre en évidence aussi ces polluants éternels, notamment, et le plastique aussi, de l'ordre de la nanométrie. Hein. Est-ce que la science et les penseurs se mettent au parfum ou se renseignent sur justement ces techniques et de là peut-être amener des réflexions à l'adresse des pouvoirs également ou des administrations.
Alors, la question des rapports entre la science et la pensée, la science est une forme de pensée, mais disons pas une pensée au sens d'un discours de recommandation. On est dans la science, elle est censée décrire. Vous avez raison, longtemps, la pensée écologique s'est un peu tenue estimée qu'elle en savait assez. Et ce n'est que depuis une quinzaine d'années, notamment autour des figures de Bruno Latour et de ses élèves, parce que Bruno Latour était un philosophe des sciences, qui n'avait aucun dédain pour les sciences et qui s'intéressait à ça. Donc il y a des dialogues qui se sont noués. Je pense par exemple à la figure de Malcolm Ferdinand, qui a fait un livre sur l'écologie décoloniale et qui est lui-même ingénieur chimiste, et qui a à un moment une phrase, un passage très juste, il dit « Il faudrait qu'on s'intéresse un peu plus à la chimie, qu'on voit que c'est un sujet politique. » Que les cycles de l'azote, du carbone et des différentes particules, molécules qui composent nos vies. Alors moi, c'est des sujets sur lesquels j'ai des compétences très, très superficielles, mais je découvre, et je crois que dans un certain nombre, on va découvrir ces sujets-là. Donc le dialogue, ça s'amorce. Il n'est pas facile parce qu'il y a un rattrapage, une ignorance large du champ des sciences humaines par rapport à la science. Voilà, il y a des dialogues qui commencent par exemple à Normale Sup, l'école normale supérieure de Paris. Il y a une structure interdisciplinaire qui s'est mise en place sur la question environnementale avec des scientifiques, des climatologues, des mathématiciens, des physiciens, des sociologues, des professeurs de littérature, des philosophes, des politistes. L'idée étant de montrer l'interaction de tout ça. Donc oui, le dialogue se met en place, oui.
Vous êtes ici donc pour animer cette conférence Penser l'écologie avec Claire Lejeune, qui est doctorante en philosophie et militante écologiste. Qu'est-ce que vous avez proposé dans ce thème au public ?
Écoutez, on a organisé l'intervention en deux parties. Claire Lejeune qui a brossé un portrait général des rapports des sociétés modernes avec leur environnement, montrant comment les sociétés modernes ont tendance à invisibiliser la nature, à l'effacer, à l'oublier, comme si c'était quelque chose qui devait être en coulisses. Et que la seule chose qu'on devait voir, c'est les produits finis dont on allait jouir et dont on allait avoir en abondance. Donc elle a montré cette évolution sur deux siècles, depuis Adam Smith au début du 19e jusqu'à aujourd'hui. Et moi, sur ce paysage global, j'ai un peu planté des petits portraits, des miniatures de cinq penseurs. Rousseau, dont j'ai parlé, Rachel Carson, dont je vous ai parlé, André Gortz, dont je n'ai pas parlé, qui était un philosophe et journaliste à l'Obs, qui est mon journal, donc lui était fondateur de l'Obs dans les années 60, et qui a vraiment été celui qui a apporté la pensée écologique en France dans les années 70, exactement en 70 et dans les années qu'on suivit, avec une chose très importante en 72-73. Et puis Philippe Descola et Bruno Latour pour la période plus récente. Donc notre idée, c'était de montrer, d'avoir ce fond de carte comme ça, cette grande trame, la modernité et l'environnement, son rapport, et puis à l'intérieur de ça, des penseurs qui ont essayé de penser, de montrer les impasses, les difficultés, ce qu'on pouvait ouvrir des horizons et des chemins.
Quel est, d'après vous, le système qui empêche justement ce développement et cette réflexion sur l'écologie et ses actions ?
La réflexion, elle n'est pas empêchée. Ensuite, ce qui empêche le passage à l'action, c'est le rapport de force. On est dans une société, on est dans des sociétés, comme toutes les sociétés, qui sont des sociétés de rapport de force. Il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que ça bouge, parce que ça mettrait en cause leur situation économique, leur profit, leur position de domination dans la société. Donc, pour le dire de façon très simple, on peut dire que c'est le capitalisme. Qui par sa fonction, son fonctionnement même, le capitalisme, il est là pour faire un maximum de profit. C'est vraiment son obligation légale. Hein. Une société, légalement, elle doit maximiser son profit. Donc, tout ce qui va réduire son profit, elle va le mettre de côté, elle va le mettre sous le tapis. C'est ce qu'on va appeler les externalités négatives. Vous avez une usine et vous servez d'eau pour nettoyer et vous avez des rejets polluants toxiques, vous les mettez dans une petite rivière à côté, ni vu ni connu. Alors maintenant, il y a des régulations, des surveillances, mais le principe du capitalisme, c'est un jeune économiste, Antonin Potier, qui raconte ça très très bien. Le principe de la loi du profit, c'est par définition de chercher à accumuler le maximum de profits privés et à se décharger dans l'espace à la charge de la collectivité de ce qui va limiter ses profits, en privatiser les profits, socialiser les pertes. Et ça, cette mécanique-là, elle fait que, par définition, et même s'il y a des chefs d'entreprise qui font des choses très bien, qui sont pleins de bonne volonté, etc., par définition, l'entreprise qui doit faire du profit, elle fera toujours passer après ce qui ne lui rapporte rien, c'est-à-dire la sauvegarde de l'environnement.
Est-ce que, justement, est-ce que dans ce secteur-là, il existe un pouvoir de pensée de manière à influer aussi, peut-être, ce comportement ?
Ah ben c'est ce que je disais tout à l'heure, la présence maintenant dans les universités, partout, dans les instituts de sciences politiques, de penseurs formés, enfin de professeurs, de chercheurs formés à l'écologie, à la pensée écologique, aux enjeux écologiques, modifie considérablement la donne et donne une influence. En disant ça a vraiment changé radicalement. Alors ensuite la question c'est cette influence, comment elle va s'exercer dans les entreprises, dans l'administration d'État. Quand le directeur du Trésor ou le ministre de la Finance dans 20 ans aura été un jeune qui a été formé à ça et qui aura 50 ans, voilà, et dans quelle mesure il va mettre en application ce qu'il a appris. Ensuite, les classes d'âge ne sont pas non plus uniformes. Il y a des jeunes de 20 ans qui n'ont rien à faire de l'environnement. Il y a des gens de 60 ans pour qui c'est très important. Donc, il n'y a pas non plus d'évolution mécanique. Hein. Tout ça, c'est un pari. Et ce n'est qu'un des champs où il y a l'évolution. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à militer, faire pression par l'engagement militant. Il faut aussi continuer à réfléchir, écrire, faire des festivals comme ici, inventer des ateliers, réfléchir aussi à des formes nouvelles, du cinéma nouveau, de la littérature. Enfin, et puis des nouveaux circuits de distribution, en alimentation, des nouvelles pratiques agricoles. Tout doit être mené de pair. Hein. Il n'y a pas une solution. La pensée écologique, c'est un des champs sur lequel, c'est le champ de la pensée sur lequel la bataille a lieu, mais la bataille a lieu dans les autres champs aussi. Voilà, donc ce n'est qu'un des champs de bataille.
Vous citez Greta Thunberg autour de ce livre, donc Les penseurs de l'écologie. Pour vous, elle représente en même temps la jeunesse. Est-ce que vous espérez un certain optimisme dans ce combat justement?
Alors, d'abord, on a mis Greta Thunberg, qui n'est pas une théoricienne, mais parce qu'en fait, elle a quand même un discours assez marqué et assez structuré, notamment avec cette idée, cette phrase forte qu'elle a, « I want you to panic », je veux que vous ayez peur, qui renvoie à un philosophe allemand, à Hans Jonas, qui avait parlé d'une heuristique de la peur. Heuristique, ça veut dire comprendre part. Donc, la peur comme nous aidant à comprendre. Souvent, on dit que la peur est mauvaise conseillère, ça dépend. En fait, il faut ne pas avoir peur peut être aussi un très mauvais conseil. Donc, il faut s'ajuster de la bonne façon et la peur peut être utile. Donc déjà, elle pose la question de la peur et on entend un discours souvent disant « Oh là là, si on commence à faire peur aux gens, ça va les démobiliser, etc. » Si les gens n'ont pas peur, ça ne va pas non plus les mobiliser. Il faut trouver un équilibre. Et vous dites la jeunesse, alors c'est le discours consistant à dire les jeunes vont nous sauver. C'est un discours qui, moi, ne me plaît pas beaucoup. Bah, c'est quand même une façon de dire ils vont nettoyer les saletés qu'on a laissées, le sale boulot qu'on n'a pas fait. Donc c'est un élément intéressant, mais je trouve ce n'est qu'un parmi d'autres et il faut aussi que les gens de 60 balais se bougent, les gens de 40 ans, les gens de 70 ou 80 ans qui ont du temps, les retraités, voilà, tout le monde, on a besoin de tout le monde dans ce combat et personne ne peut dire « c'est pas pour moi ».
Vous avez rédigé de nombreux ouvrages avec des thèmes très variés. Qu'est-ce qui vous a amené ces dernières années à vous intéresser à l'écologie ?
Alors comme journaliste, j'ai d'abord écrit sur l'économie, puis sur la politique internationale, sur la politique et la vie intellectuelle. Et j'ai basculé sur la question de l'écologie à partir des années 2015-2016, après la COP21. En fait, parce que de mon point d'observation qui était la vie intellectuelle et les ouvrages qui paraissaient, les travaux des chercheurs, j'ai vu monter cette question. Et j'ai trouvé que ce qu'il racontait était absolument passionnant, que c'était des choses que j'ignorais. J'étais étonné, j'avais un peu honte de l'ignorance crasse dans laquelle j'étais sur les cycles, le cycle de la matière fertile, le cycle de l'eau, le cycle de l'azote, le fonctionnement des forêts, le fonctionnement des océans. Enfin, c'est incroyable, on est à l'alphabet, quoi. On est sur Terre et ces choses qui sont autour de nous, on n'en sait rien du tout. Donc j'ai eu envie de rattraper ce retard et puis voilà, j'ai senti qu'il y avait là une ébullition, une effervescence intellectuelle attirante et qui m'a beaucoup nourri. Voilà, donc j'ai cette chance dans ce métier de pouvoir passer d'un sujet à l'autre.
Eric Eschiman, je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette émission pour nous parler de cette conférence Penser l'écologie et de cet ouvrage aussi, Les penseurs de l'écologie.
Voilà. Paru au Lien qui libère. Ben, je vous remercie aussi. Merci, au revoir.
Au revoir. Just a sprinkle of stardust and a whisper. Go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer, like dreamers do. Then I fall asleep to dream my dreams of you. In dreams I walk with you. In dreams I talk to you. In dreams you're mine. All of the time we're together. In dreams, but if I cry, I remember that you